7h presque 17. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
On a des chiffres de Oxfam ce matin. 82 % de la richesse mondiale créée en 2017 se trouve entre les mains du fameux 1 % de la population.
Oui, évidemment, l'ONG le dénonce parce qu'évidemment, les gens ne voient pas la portée de ça. Un, c'est l'envers du capitalisme, hein, la concentration de la richesse. Il y a deux genres de catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont capables de piler et les personnes qui consomment tout ce qu'elles gagnent par obligation. Il y a une petite variation de choix personnel entre les deux, mais généralement, on peut dire qu'on est dans deux catégories potentielles. Et il y a aussi les notions d'héritage. T'sais, les frères Molson, les frères Bronfman, c'est des exemples où, de génération en génération, on se lègue de l'argent et des actifs qui font en sorte de créer des écarts de richesse. Et pendant tout ce temps-là, il y a une barrière à l'entrée à l'économie. C'est-à-dire que si tu as des placements, tu es capable de mettre la main sur d'autres placements. Tu es capable d'investir dans des domaines risqués parce que tu te dis, c'est pas grave, j'ai les moyens de perdre cet argent-là. Et ça crée encore plus d'écart parce que les gens qui ont peu de ressources ont moins les moyens de se mettre à risque pour leur famille, pour leurs descendants. Donc, plus on est riche, plus on prend des risques et plus on fait du rendement. Donc, cet écart-là se creuse. Et c'est pour ça qu'on voit des chiffres comme ça. Donc, dans une société comme aujourd'hui, la notion de liberté existe. Mais il y a une espèce d'esclavagisme économique. Si une personne a besoin de payer son loyer et que tout ce qu'elle peut faire, c'est quelques emplois, c'est une forme d'esclavagisme déguisé parce que dans le fond, d'un côté, faut que je paye pour faire partie de la société un logement, faut que je paye mes vêtements, mon électricité. Et d'un autre côté, j'ai un choix limité de capacité économique. Donc finalement, au lieu de tenir des gens en esclavagisme au niveau légal, on les tient au niveau économique et plus les écarts de richesse vont se créer, plus il y aura cette notion d'injustice et plus la société de droit va être menacée. Donc les façons d'aider ça, c'est un, lutter à l'évasion fiscale, aux paradis fiscaux, à même la fraude fiscale locale, mais aussi valoriser une certaine redistribution de richesses et faire comprendre que la société de droit ne tient qu'à l'acceptation collective de nos droits économiques.
Mais tu sais, j'allais dire comme exemple, là, ce matin, là, tu vois de l'argent qui arrive des paradis fiscaux pour financer les compagnies qui vont se lancer dans le pot commercial, là, parce que c'est hyper payant. Mais tu sais, tu dis, cet argent-là arrive d'un endroit, on présume que c'est légal, là, ou en tout cas...
Légal entre guillemets, là, oui.
Oui, bien, c'est ça que je l'ai dit, là. Mais tu comprends? Et là, ils viennent faire de l'argent avec un secteur de l'économie où on s'attend à des rendements, tu le disais la semaine passée, là, assez extraordinaires. Fait que dans le fond, ce que tu dis, toi, c'est ceux qui ont de l'argent vont toujours en faire plus.
Ben oui, puis Paul, prends Apple, par exemple, la semaine dernière, on nous dit on va rapatrier de l'argent aux États-Unis parce qu'on a le droit présentement, on est obligé de le faire, de payer de l'impôt, même quand c'est offshore. Donc, on va le rapatrier puis on va l'investir, finalement. Là, tout le monde se lève la barricade et dit « Hey, mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable, c'est vrai. » Puis d'un autre côté, on regarde notre régime des rentes du Québec, on regarde nos placements personnels, on regarde nos fonds, puis si on fouille, on va en trouver des paradis fiscaux. Donc, on est tous un peu pris dans cette logique de vouloir plus, de vouloir faire plus de rendement, mais ça écrase une portion de la population pour ça, parce que pour que je puisse être rentier un jour, puis que je veux faire des rendements à 6, 7, 8%, faut que je fasse de l'argent sur le dos de quelqu'un. Et ça, c'est l'injustice de notre système.
Bon, là, tu veux donner un petit conseil ce matin, je pense, à ceux qu'on appelle les influenceurs. Un conseil fiscal.
Oui, je ne veux pas partir de chicane, mais en fin de semaine, j'ai fait un commentaire en disant qu'il serait peut-être temps qu'on s'intéresse à la fiscalité de ça. Je t'explique. Il y a beaucoup de gens qui font du troc. Par exemple, tu fais une petite post, une petite affirmation, tu es un influenceur. « Ah, j'ai bien aimé tel hôtel pendant mes vacances avec mon conjoint, puis pas que je te donne la chambre gratuite. » Ça, Paul, techniquement, c'est pas juste de l'influence, c'est pas juste du troc. Un troc doit être évalué à la juste valeur marchande. Donc, si tu fais de la publicité en échange d'une semaine de vacances, la semaine de vacances a une juste valeur marchande et ça doit s'ajouter à tes impôts. Là, je parle pas du critique de pot de crème qui reçoit un pot de crème gratuit pour le tester. Là, je parle de quelqu'un qui accepte de faire une publicité.
Dans mon langage, on appelait ça à la radio à l'époque des contrats-échanges.
Ouais, des contrats-échanges, tout à fait. Des barter agreements, et Paul, t'as raison, ça existe depuis longtemps. Mais ça doit être déclaré quand c'était... Je te donne un exemple. Mettons, moi, j'allais faire une conférence. Puis je disais à la compagnie, « Hey, payez-moi pas en dollars, je le déclarerai pas. À la place, donnez-moi des cartes cadeaux, par exemple. Ou donnez-moi une voiture gratuite. Ou donnez-moi, tu comprends? » Ça, veux pas, si on prend les deux transactions indépendantes, je serais payé pour la conférence et je paierais pour les cartes cadeaux, je paierais pour l'épicerie. Donc, si je fusionne les deux, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'échange monétaire que je dois pas le déclarer au fisc. Là, les gens me disent, oui, mais les paradis fiscaux, attaque-toi donc pas aux petits. Non, je fais juste parler que quand tu fais 35, 40 000 par année, puis que tu déclares pas un 10, 15 000 de dollars, t'es en train de frauder tes collègues parce que, au bout du compte, tu vas payer moins cher tes garderies, tu vas avoir plus d'allocations canadiennes pour enfants, tu vas avoir droit au crédit d'impôt pour solidarité, tu vas avoir droit à plein de choses parce qu'au lieu de te faire payer en dollars, tu ne paies pas l'impôt et tu te fais payer, entre guillemets, en nature de biens ou de services. Et beaucoup de gens s'offusquent de ça, mais c'est pas parce que t'es influenceur que t'es cool que quand tu signes un contrat de publicité, tu paies pas d'impôts. Un bon exemple, si tu sens que t'es on donne de quoi de gratuit parce que tu fais une publicité, t'es devenu quelqu'un qui fait de la publicité et ça, c'est imposable, malheureusement, que ça te fasse plaisir ou non. Évidemment, si tu vas dans un café, mettons tu vas au café du coin de la rue, puis la personne, elle te trouve vraiment cool d'aller au coin de la rue, puis elle te dit, tiens, je te donne un café gratuit, va pas mettre ça dans tes impôts, là. Je suis pas un nazi de la fiscalité. Ce que je te dis, c'est quand c'est matériel, quand c'est significatif. Tu sais, quand tu dis, oh mon Dieu, j'aime beaucoup ma BM ou ma Honda Accord, pris chez tel concessionnaire, puis tu le fais une fois par mois pendant 12 mois, puis t'appelles pas ta voiture, puis ils te la fournissent gratuite, mais la valeur de la location à la juste valeur marchande doit être dans tes impôts. Je sais que c'est pas le fun de se faire dire ça ce matin.
Un lundi matin après un beau week-end comme ça, toi t'as décidé que tu leur donnais, mise en garde fiscale.
C'est parce qu'il y a eu, en fin de semaine, une influenceur qui s'est plaint qu'une chambre d'hôtel, il avait pas donné son hôtel gratuite. Et le gars de la chambre d'hôtel avait simplement sorti sur Internet en disant, « Bon, cette fille-là m'a quitté une chambre d'hôtel gratuite pour une fin de semaine ou une semaine avec son conjoint. Puis elle mérite pas de vivre. » Tu comprends un peu, c'était comme une chicane.
Okay.
Mais au-delà de tout ça, j'ai dit, parlons fiscalité parce que c'est le
aujourd'hui, on appelle ça des influenceurs. Dans mon temps, on appelait ça des freeloaders.
Oui.
Du monde qui tête des affaires, des restaurants, des commerces, puis tout ça. Là.
Ça, c'est comme le monde qui vont dans les échantillons, tu sais, juste partout, ils quittent les échantillons pour jamais payer.
Salut. Il est, tu vas souper au Costco. Il est 7h23.